Ce matin, je vous fais voyager par le biais d'un haricot catalan, le Alta de Moda, pour être plus précise. Vous l'ignorez peut-être, mais on retrouve ici même, au village, ce haricot en provenance de la région de la Catalogne, en Espagne. Il a même poussé au cours du dernier été dans la serre de Micheline Lapointe-Mongé, notre bien-aimée jardinière responsable du jardin communautaire de Nutrition Nord. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec ce fameux haricot catalan, ce sont les milliers de kilomètres qu'ont parcouru ses semences. Pour en tracer l'histoire, je dois vous présenter M. Juan Rogue Jenner, originaire de Villa Seca en Catalogne. En 1939, M. Rogue a fui la guerre pour s'installer à Paris, en France. Puis en 1957, il a traversé l'Atlantique pour habiter à Montréal, avant de déménager ses pénates à Sainte-Luce, communément appelée Sainte-Luce-sur-Mer, dans le Bas-Saint-Laurent, au cours des années 70. Grand jardinier dans l'âme, M. Rogue y cultivait le haricot Moda, comme le faisait son père en Catalogne avant la Deuxième Guerre mondiale. Semble-t-il que le jardinier était peu enclin à partager ses semences, mais un jour, il en a offert à une dame avec qui il s'était lié d'amitié à Sainte-Luce. Cette dame s'appelle Louise Proux. C'est par l'entremise de cette dernière que Micheline Lapointe-Mongé a pu entamer la culture du haricot Moda cet été. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après le décès de M. Rogue en 2014, grâce à Mme Proux, on s'est rendu compte que le fameux haricot catalan dit Moda avait à toute fin pratique disparu de la Catalogne durant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Une analyse scientifique a été réalisée sur des semences fournies par Mme Proux par le chercheur Jordi Puig-Roca, coordonnateur de l'Espigale et chercheur en sciences de l'environnement, qui a pu authentifier la plante. La question qui demeure sans réponse, par contre, c'est de quelle manière les semences originales sont-elles arrivées jusqu'à Sainte-Luce? Et Mme Proux aimerait bien pouvoir poser quelques sous-questions à son vieil ami aujourd'hui décédé. Hein, les avait-il depuis son exil de la Catalogne? En a-t-il cultivé durant toutes ces années passées entre Paris, Montréal et Sainte-Luce? En a-t-il reçu de sa famille au fil des ans ou les a-t-il récupérés lors de ses quelques visites sur sa terre d'origine? Bref, toutes des questions qui demeureront malheureusement sans réponse. Mais quoi qu'il en soit, si M. Rogue n'a pu finir ses jours comme il le souhaitait dans la région qu'il a vu naître, eh bien les haricots qu'il chérissait, eux, ont pu y reprendre racine. Et pour en savoir davantage sur toute cette aventure et sur ce désormais célèbre haricot Moda, je vous propose d'écouter une entrevue que Louise Proux a accepté de m'accorder. D'abord, elle nous explique de quelle manière elle s'est aperçue qu'elle avait en sa possession une plante catalane disparue des terres de la Catalogne.
Ce qui est arrivé, c'est que, bon, après le décès de M. Rouag, on avait mis, moi, j'avais mis en contact M. Rouag avec des gens du Cercle culturel catalan à Montréal, parce que lui voulait, son grand rêve, c'était de retourner mourir en Catalogne, retourner vraiment. Et puis, on essayait de faire des démarches avec ces gens-là, puis c'était assez complexe, finalement, il n'est jamais. Puis, lui, il avait une santé assez chancelante. Alors, il n'a pas pu, donc, faire son grand projet, mais il y avait ces gens-là qu'il connaissait parce qu'ils sont venus l'interviewer dans sa maison. Et moi, je les connaissais. Donc, après le décès de M. Rouag, j'ai rappelé ces gens-là en leur disant, j'ai des haricots qui me viennent de M. Rouag, ils s'appellent Moda. Il les appelait Moda. Je trouve rien sur Internet. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un autre nom qui portait? Alors, ces gens-là ont dit, on va envoyer des graines en Catalogne. Alors, ils ont envoyé des graines à l'Université de Barcelone et des graines qui venaient de chez moi. J'aurais donné peut-être une dizaine de graines. Ils ont envoyé ça là-bas. Et là-bas, ils ont commencé à faire des recherches. Et puis, finalement, ils ont découvert que ce haricot-là était vraiment un haricot catalan qui était disparu des cultures depuis plusieurs années. Et après ça, ben c'est un peu comme ça que ça s'est produit, retour.
Quelle a été votre réaction?
À ce moment-là, j'étais très contente de savoir que ce haricot-là était... Et j'étais aussi contente même pour M. Rouag en me disant, bon, ben lui, il n'a pas réalisé son projet de revenir, mais d'une certaine façon, son nom puis ses haricots sont retournés dans sa terre natale. Donc, s'il est en quelque part... Il est conscient de ça, ça peut être... C'était bien pour lui.
Oui, c'est très touchant, effectivement. Et, oui. Et la grande question pour nous, là, qui sommes à tête à la baleine, nous avons des graines de ce haricot-là. Comment, je sais que c'est vous qui les avez remis à Micheline Lapointe-Mongé, qu'on connaît bien ici, mais dans quel oui. contexte tout ça s'est fait?
C'est que Micheline, que vous appelez Mimi là-bas, oui. moi, j'ai rencontré seulement une seule fois. Et puis, elle est venue rencontrer une amie qu'elle a ici à Saint-Luc, qui est mon amie aussi. Et comme je fais des grands jardins avec des fleurs puis un grand potager, ils sont venus visiter mon potager. Et puis, j'ai donné des graines à Madame Lapointe. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé.
Tout simplement comme ça. Avez-vous remis depuis des graines à d'autres personnes? Est-ce qu'il y a ces haricots qui poussent ailleurs au Québec aussi grâce
oui.
à vous?
Oui, ben je pense que oui, parce que ben en tout cas moi j'en ai donné à beaucoup d'amis jardiniers, aux gens de ma famille aussi, mais ça se fait davantage là, de jardinier en jardinier, je vous dirais. Je sais que les gens de Catalogne à Montréal en cultivent parce qu'ils ont comme une espèce de fête annuelle avec une paella et c'est un des ingrédients de leur paella. Donc eux ils l'ont introduit dans la région, mais ça se fait comme du point de vue plus jardin individuel. Mm-hmm. Moi, la seule chose que je vois ici, ben, ça a paru dans la presse, je sais pas quel, je sais qu'il y a des gens qui s'en ont procuré. Le monsieur dont vous avez lu l'article, d'ailleurs, disait qu'il voulait faire inscrire le haricot à une espèce d'organisme de sauvegarde. Donc,
oui, oui, oui.
Il s'offrait en vente. Donc, il y a peut-être une piste de ce côté-là. Je sais pas où ça en est actuellement. Moi, dans ma région, il y a plein de gens aussi. Dans le village, on en a au jardin communautaire. Il y a plein de gens que je connais autour qui en font. Et il y a un maraîcher du village voisin de Sainte-Flavie qui, lui, il en a sur ses étals. Maintenant, il commence à le produire. Il a un petit peu de difficulté à l'introduire parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu ici. Les gens sont un petit peu réticents. Mais dès qu'ils ont adopté, donc ils pensent probablement de développer quelque chose d'intéressant autour de ce haricot-là.
Et quand je vous ai dit là, des haricots espagnols, vous m'avez repris avec raison d'ailleurs que c'est vraiment des haricots catalans parce qu'il y a une distinction entre ces deux types de haricots.
Oui. Le haricot espagnol, il est beaucoup connu, mais davantage du côté de l'horticulture. Si on mettait un haricot moda et un haricot espagnol l'un à côté de l'autre, je ne sais pas si je pourrais faire la différence. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Sauf que le haricot, comme je vous dis, espagnol, il fait des fleurs rouges et c'est surtout pour ça qu'il est vendu. Il sert à cacher des clôtures, faire des tonnelles, des trucs comme ça. Donc, c'est plus l'élément décoratif qui est retenu. Et ce haricot-là, il est assez coriace. C'est pas très bon hein, okay. à manger. Alors que l'autre haricot, et c'est ça qui fait, je pense, qui fait que ça va fonctionner puis que les gens l'adoptent facilement, c'est un haricot qui produit beaucoup quand il est dans des bonnes conditions, le haricot moda. Et aussi, c'est un haricot qui est très tendre. Quand on le cueille au bon moment, il ne faut pas attendre que les graines soient très grosses à l'intérieur, mais il faut vraiment le cueillir quand il est un peu comme les mange-tout, c'est-à-dire assez plate. Les graines ne seront pas développées à l'intérieur. Et il est sucré, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de fil d'attache comme beaucoup, beaucoup de haricots ont. Et il cuit très, très rapidement. Donc, c'est un bon haricot.
Est-ce qu'il est difficile à faire pousser?
Pas vraiment. Il est un peu plus tardif que le haricot, le petit haricot vert qu'on a. C'est un haricot grimpant et il est un petit peu plus tardif. Je me rappelle que Madame Lapointe, les graines que je lui ai données, j'ai donné simplement quelques graines. Elle m'avait dit qu'elle avait semé les premières au jardin communautaire, ça n'avait pas fonctionné, mais qu'elle me dit aussi que c'était probablement parce que la terre est trop froide. Mm-hmm. Était trop froide, c'était trop tôt peut-être en mai ou c'était trop tôt, la terre était vraiment trop froide. Et elle en a semé les dernières, elle les a semées chez elle et ça a bien fonctionné. Elle a pu ramasser des graines. Pour le reproduire.
Donc, on verra d'ailleurs l'an prochain comment elle va manœuvrer tout ça pour réussir à les faire pousser. Je lui adresserai d'ailleurs la question directement.
Moi, je le cultive de deux façons. C'est-à-dire, je le cultive en pleine terre et là, je vais attendre vraiment, comme disait Mme Lapointe, que le sol soit vraiment réchauffer, c'est-à-dire plus que 10 degrés pour que ça puisse germer. Donc, quand je le fais à l'extérieur, moi, j'attends que ça soit 10-15 degrés, puis c'est plus, c'est peut-être un petit peu plus chaud que peut-être à la baleine, mais c'est pas chaud non plus. Alors, ça, c'est, je veux dire, quand je le plante à l'extérieur, c'est vraiment autour de la Saint-Jean-Baptiste.
Ah, OK, oui.
Et là, moi, ceux que je plante à l'extérieur, je vais les récolter au mois d'août. Mais quand je le fais en serre, parce que j'ai une serre, et pour en avoir plus tôt dans la saison, je le fais en serre aussi, je le plante en mai. Et là, il produit beaucoup plus en mai, parce qu'il est plus long d'ailleurs, parce que les plants à l'extérieur, ils font à peu près 1,50 m, et les plants dans la serre, ils font 5 ou 6 mètres. Il faut aller chercher l'escabeau pour aller ramasser les derniers en haut. Donc, avec la chaleur, ça produit davantage. Puis, je vous parle de ça parce que j'ai vu qu'il y avait derrière le jardin communautaire chez vous des grandes serres qui ne font pas partie du jardin, je pense. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont faire là-dedans, mais ce serait comme l'endroit idéal là, pour semer puis faire de la grande production.
On va en parler à l'équipe de la ferme du Rigolet dans ce cas-là, pour peut-être ajouter ce légume à leur production.
Si jamais ils veulent des graines, j'en ai plein, ça que je pourrais leur en envoyer.
On passera le mot avec plaisir. Vous l'avez mentionné, là, être venu à Tête à la Baleine. Comment vous avez trouvé nos installations, les jardins?
Les jardins? Ah, c'est bien, c'est parce que je pense qu'on est arrêté à peu près une demi-heure, j'étais vraiment trop rapide. Puis il y avait l'autobus, donc on est allé jusqu'à l'école et puis on est revenu, puis il y avait une visite à l'église, puis moi je me suis sauvée, puis je suis allée dans le jardin parce que je suis responsable aussi du jardin communautaire ici. Mm-hmm. Je voulais savoir comment ça fonctionnait. Et j'ai parlé avec Yolande et puis on a parlé de culture, on a parlé de sol et tout ça. Ça a été bien agréable.
Est-ce que c'est Mimi qui vous avait invité à venir voir son village lors de votre rencontre?
Oui, elle m'avait invité, mais elle n'était pas là au moment où je suis passée. J'ai une amie aussi qui vient de la Basse-Côte et puis qui me parle beaucoup de son pays, comme elle dit. Et puis, je vais retourner. On n'a pas eu du beau temps sur le bateau, mais je vais sûrement retourner faire un tour. Il y a des choses qui m'intéressent. C'est un défi de faire de la culture, mais en même temps, il y a des choses à inventer, je pense. Je me rappelle que M. Wag faisait pousser lui des artichauts, des endives, et des choses des aubergines ici. Et puis, il faisait comme des structures sur le sol, comme des petites serres très basses. Puis, il réussissait, même si c'était quand même assez froid. Nous, on est sur le bord du fleuve, et puis c'est assez froid. L'été, ici, quand on a 20 degrés au mois de juin, on est content. Ben, c'est vraiment souvent, juste dans les villages derrière, c'est vraiment plus chaud, mais sur le bord de mer, c'est assez frais. Donc, lui, il travaillait avec des serres. Il arrivait à faire pousser des trucs qu'on n'avait jamais essayé ici, parce que justement, en le coupant du vent, puis en créant un peu de chaleur autour, il réussit à faire des choses intéressantes. Alors, je pense qu'il y a plein de possibilités aussi à Tête à la Baleine avec un peu d'imagination et les bonnes semences.
Effectivement, on va garder ça en tête. Bien, merci encore une fois, Mme Proulx, pour le temps accordé ce matin. Vous venez d'entendre Louise Proulx, résidente de Sainte-Luce, qui a remis des semences à Micheline Lapointe-Monger, là, des semences de haricots Moda. Quelle fascinante histoire quand même. En référence au contenu de l'entrevue, là, Micheline Lapointe-Monger compte bel et bien poursuivre la culture du haricot Moda au cours de l'été prochain à Tête à la Baleine. Et sachez que du côté de la Catalogne, qui a retrouvé son haricot perdu, on a procédé à la multiplication des semences du haricot Moda en 2021, afin de les distribuer à quelques agriculteurs catalans pour une multiplication à grande échelle. L'objectif des responsables était d'en faire bénéficier le plus grand nombre de gens possible en le réintroduisant dans sa terre d'origine. En ce qui a trait à M. Rogue, qu'on appelle gentiment à Sainte-Luce M. Rouague, puisque son nom s'appelle R-O-I-G, eh bien, un film sur sa vie intégrant l'histoire du haricot Moda est en préparation, comme me l'a confirmé Mme Proulx. Comme quoi, le voyage n'est pas encore terminé.
Notez qu'une partie du contenu de ce reportage est inspirée par l'article « Leur haricot Moda » publié le 28 novembre 2021 sur le blog « Potager d'antan » de Michel Richard. C'était vos informations locales présentées par La Voix du Large en collaboration avec l'initiative du journalisme local.